Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Troisième partie, page 76 à 83a. Après avoir accouché de son premier-né, Thérèse dut apprendre les gestes maternels pour langer ou baigner son enfant. Avec ses doigts tendus vers le nourrisson, ses mouvements précis, elle donnait à qui l'observait l'impression de l'avoir fait toute sa vie. Quatre enfants sont nés dans ce foyer, Myriam, Joël, Mireille et Rachel. Et chaque matin, Thérèse confiait ses enfants à Dieu. « Tu sais tout ce qui échappe à ma vigilance. » Thérèse connaît ses enfants du bout des doigts. Le grain de leur peau, leurs cheveux en bataille, les reliefs du visage qu'elle caressait d'une main légère. En écoutant le souffle des respirations, elle suivait leurs déplacements. Thérèse et Jean-Jacques se sont connus un 7 août et mariés 3 mois après, un 7 novembre. Une date facile à retenir. Au début de leur mariage, Thérèse vécut les plus beaux jours de sa vie et rendait grâce au Seigneur d'avoir un logement à elle et un mari tout mignon. Chaque matin, Jean-Jacques remplissait les biberons d'une quantité d'eau précise. Thérèse, à l'heure des repas, ajoutait le lait en poudre. Il laissait en elle le plein bonheur d'être aimé. Le samedi, Jean-Jacques poussait le landau d'une main et de l'autre enveloppait avec tendresse celle de Thérèse. Il la conduisait d'un pas tranquille parmi la foule qui flânait devant les étals du marché. Il traversait les allées bordées de légumes et fruits mûrs dont certains, tombés à terre, dégageaient un parfum suave. La voix criarde des maraîchers se mêlait aux chalands et l'invitait à goûter un fromage de chèvre, un melon de Cavaillon, ou bien quelques olives noires. Certains passants sondaient la maturité des fruits en les pressant entre deux doigts, ou les respiraient à plein nez, pendant que Jean-Jacques apprenait à Thérèse le chemin qui les ramenait chez eux. Elle savait désormais à quel angle de rue tourner, à quel commerçant s'adresser, et pouvait s'y rendre seule avec les enfants. Elle se demandait parfois comment sa mère exécutait les gestes quotidiens qui s'enracinent dans l'amour que porte une femme pour ses enfants. Sa mère, l'avait-elle aimée? Elle n'en savait rien. Aucun souvenir de cette prime enfance ne s'attardait dans sa mémoire. Il remontait à l'histoire que sa sœur lui racontait, pas au-delà. Perpétrer ce qui se transmet à travers les générations revenait donc pour Thérèse à se confier à Dieu. Tu sais tout ce qui échappe à ma vigilance. » Une lampe de chevet éclairait les soirées que passaient ses enfants à lire ou s'amuser. Raccordée par une rallonge à la prise murale, elle jetait un halo de lumière tamisée qui finissait sa course derrière la pénombre des rideaux fermés. L'éclairage suffisait en tout cas pour accompagner leur rire jusqu'au fond du sommeil. Elles avaient une chambre séparée des parents, dans l'appartement qu'ils habitaient. C'est la deuxième des filles qui, ce soir-là, branche ce long fil électrique sur la prise murale et débranche l'autre côté de la rallonge pour la mettre dans sa bouche. Thérèse préparait le repas quand elle entendit un cri se répéter 2 fois et sans savoir pourquoi elle pensa « pourvu qu'elle ne s'électrocute pas ». Sans autre raison que cette idée, elle se dirigea vers le disjoncteur et coupa le courant. C'était le geste à faire, juste à temps. Elle ne sut jamais pourquoi cette idée s'imposa. Simple intuition. Alors, tous les soirs, elle remerciait le Seigneur d'avoir protégé ses enfants. Si la vue manquait à Thérèse, une ouïe perturbée affectait son mari. Entendre. Un organe en forme de coquillage analyse dans l'oreille interne les fréquences sonores. Dans le ventre de cette spirale, 16 000 cils interprètent la partition des sons. Mécanique complexe et merveilleuse. Le médecin avait pourtant parlé d'une opération banale à Jean-Jacques qui le consultait pour les problèmes auditifs à cette oreille droite. Celle de gauche lui avait déjà provoqué d'intolérables souffrances. Il n'avait donc pas hésité un instant à prendre rendez-vous. Ce qui le gênait à l'oreille droite devait être soigné par une opération que le spécialiste qualifiait de simple. Sauf que le chirurgien se trompa d'acte, en confondant sans doute l'identité de ses patients endormis. Après cette opération qui se conclut par une irrémédiable surdité, il ne restait pour Jean-Jacques que la vague capacité de son oreille gauche pour n'entendre du monde que des sonorités lointaines, confuses. Monsieur et Madame le boulanger se précipitaient vers Thérèse et Jean-Jacques dès qu'ils les voyaient franchir le porche de l'église, et sans doute les guettaient-ils pour les serrer dans leurs bras à peine en avaient-ils franchi le seuil. Tout le monde, bien sûr, n'étreignait pas Thérèse d'une si tendre affection. Certains même passaient à côté d'elle en la frôlant sans marquer d'arrêt, sans un simple bonjour, ce qui ne manquait pas de réveiller en elle une profonde tristesse, laquelle surgissait parfois quand son entourage, ignorant sa présence, l'isolait dans une obscurité plus épaisse et plus infranchissable que cette nuit d'encre qui la séparait des autres. Ce dimanche après le culte, l'un des membres de cette assemblée lui posa cette question. « Rencontres-tu ta mère ?»« Cette femme, qu'elle ne fit que croiser par hasard, une seule fois, ou deux peut-être ?» Rien n'accrochait à sa mémoire l'idée qu'elle fût sa mère. Aucun souvenir d'odeur, de baiser, de chaleur, d'étreinte. Pas même celui d'une voix. De son enfance, elle gardait l'impression d'un long et froid exil sur des chemins déserts. Mais de sa mère, aucun souvenir. Mère, ce mot signifiait l'absence. Mais après avoir posé cette question, la personne ajouta « Vos yeux ne peuvent guérir sans lui demander pardon. » Aujourd'hui, elle a préparé sur la table du bureau une feuille de papier. Elle y pose sa main, penche son visage et se met à écrire. Sur la page s'imprime en larges volutes, en traits croisés, en lettres inégales, en quelques mots, le terme d'un long silence. Elle a commencé par exprimer le principal de sa vie et dépeindre sa foi en Christ. Elle dit comprendre que tant d'obstacles ont empêché l'une d'être mère, l'autre d'être aimée. Quant au pardon, il résidait dans ces mots qu'elle adresse à sa mère pour clore ce courrier. « Je te pardonne. » Jean-Jacques et Thérèse sont restés 27 ans dans l'église de Pentecôte. Ils l'ont quitté pour une assemblée de frères larges avant d'intégrer une église baptiste. Dans ces églises, au fur et à mesure des rencontres, ils s'étaient liés à des amis et restés proches. Ils apprirent l'existence d'une mission Timothée. Ceux qui leur en parlaient soulignaient la qualité de leur enseignement et la bénédiction particulière qui reposait sur cette église. Nichée quelque part sur une colline du côté d'Anduze, il fallait s'y rendre pour s'en apercevoir. Sceptiques, Jean-Jacques et Thérèse craignaient une redoutable désillusion. Dubitatifs, ils ne cédèrent à la curiosité qu'au mois d'août. La mission organisait des camps de jeunes, l'occasion rêvée d'inscrire leur fille pour ses vacances d'été et faire le voyage. Ils ne s'attendaient pas à ce que cette assemblée diffère de celle qu'ils connaissaient déjà, à part sans doute quelques particularités, mais rien d'essentiel. La route qui menait à Anduze traversait des villages accrochés au flanc des Cévennes. Elle grimpait jusqu'à découvrir cette succession de crêtes bleutées comme les vagues d'une mer immobile, puis replongeait au milieu d'une forêt aux odeurs de terre chaude et de pin. La luminosité du ciel, au creux des vallées, éclaboussait la rivière d'une pluie d'argent. Puis ils arrivèrent tout en haut de la colline où nichait cette mission Timothée. Ce soir-là, durant le culte, ils furent surpris d'entendre le prédicateur dénoncer le péché avec autant de clarté. En se comptant lui-même au nombre de ceux qui se confrontent à leurs propres échecs, il parlait de la grâce qu'offre le Seigneur. Lui, qui est compatissant, faisait l'expiation de la faute et ne détruisait pas. Il se souvenait qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Psaume 78, verset 38. Le pasteur évoquait l'espérance que faisait naître l'appel que Dieu nous adresse. La prédication était d'une autre teneur que celle dont ils avaient l'habitude. Elle recentrait l'attention sur Jésus-Christ et son œuvre. Dieu ne nous fortifie pas, ne nous accompagne pas, ne nous aide pas lorsqu'il s'agit pour nous de nous battre pour la réalisation de notre propre pensée. Nous imaginons prendre plaisir au bien, mais en fait, nous voyons souvent au final que ce n'est pas au bien que nous prenons plaisir, mais à la manifestation de nos pensées. Les incrédulités, les blasphèmes, les paroles de révolte qui sont le fruit de ces faux combats et de ces fausses compréhensions de la parole sont innombrables. Je crois vraiment que très souvent, animés de nos désirs, nous nous justifions par de bons mots en disant « Seigneur, c'est pour ta gloire ». Je pense que nous nous égarons souvent dans notre propre pensée. Il s'agit donc de nous laisser conduire par Dieu, par sa parole, dans les vrais combats, dans les vraies attitudes qui lui plaisent, en éloignant de nous, comme s'il fallait élaguer dans nos consciences, les faux combats et les mauvaises manières de combattre. Ne sommes-nous pas devant des forteresses et devant des géants avec un témoignage pauvre? C'est là notre combat. Face aux géants s'oppose la pauvreté du peuple de Dieu, à qui il dit « Je ne t'utilise pas, et je ne t'ai pas choisi parce que tu es bien disposé. Je sais que tu es un homme au cou raide. Tu es un type entêté, insoumis, pas souple. Ta piété ne sert à rien et ta justice encore moins. Vos armes ne valent rien, et les autres sont beaucoup plus forts que vous. Vous êtes un peuple qui ne mérite absolument pas d'être choisi et aimé. Mais je vous aime quand même, et vous ne le méritez pas. » J'utilise cette image pour que nous puissions comprendre l'état des lieux et la manière de parler du Seigneur. Et pourtant il faut combattre, et tu seras vainqueur. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons vainqueurs. Dieu ordonne que tu sois vainqueur, mais tu ne le mérites pas. Tu es faible, et les gens que tu vas affronter, les choses que tu vas rencontrer, sont hors de ta portée. C'est une obéissance à la parole qu'il te faut, un acte d'obéissance à l'état pur. C'est ainsi que le Seigneur parle. Il nous désarme en nous appelant à combattre. Il s'agit bien d'une autre fermeté que celle de nos moyens, de nos intentions ou de l'orgueil de ceux qui ont des buts et des stratégies. Que le Seigneur nous oriente selon sa parole. Lisons le psaume 149. Quelle est l'arme offensive, la seule qui nous soit donnée? L'épée à deux tranchants qui est la parole. Car ta parole est une épée à deux tranchants, elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Tout est nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Et c'est la condition pour rentrer dans le repos.